12h15, le journal de Caroline Toussaint.
Bonjour. C'est un week-end chargé pour les militants pro-climat de la région. Après une assemblée générale hier, ils organisent aujourd'hui une réunion pour tenter de sensibiliser tous les publics. Les militants espèrent être rejoints par des personnes plus âgées. Un aperçu de la Terre vu du ciel. Depuis hier, le Popa, le musée de Porrentruy, expose une centaine de clichés du célèbre photographe français Yann Arthus Bertrand. Des images qui appellent le public à avoir conscience du monde qui l'entoure. Et qui dit Saint-Martin dit boudin. Nous vous proposons aujourd'hui de rencontrer Irène Kikré qui prépare elle-même ce repas selon une recette de famille. Du côté du ciel, les nuages resteront assez présents cet après-midi avec des températures plutôt fraîches. Demain, on attend un peu plus de soleil, mais pas plus de 7 degrés en plaine et 3 sur les hauteurs. Les militants pro-climat du Jura s'organisent. Ils se rencontrent ce week-end pour préparer plusieurs actions à venir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Hier, une assemblée générale s'est tenue à Delémont et aujourd'hui, un second rendez-vous est prévu pour évoquer notamment la grève pour le futur prévue en mai prochain. Nous accueillons aujourd'hui dans nos studios Joachim Légeret. Bonjour.
Bonjour.
Joachim, vous êtes l'un des coordinateurs de la grève du climat dans le Jura. Et comme je l'ai énoncé juste avant, vous avez organisé deux rencontres ce week-end pour préparer de nouvelles actions militantes. Mais dites-moi, on a l'impression que ces manifestations très suivies en début d'année 2019 se sont quelque peu essoufflées ces derniers mois. C'est vrai ou c'est juste une impression ?
Alors, je tiens à relativiser ce qu'est l'essoufflement. En effet, je vous rappelle qu'il y a eu une manifestation le 28 septembre à Berne avec près de 100 000 personnes qui a eu lieu le lendemain d'une grève pour le climat qui a de nouveau été bien suivie. Avec certes une légère baisse d'affluence, mais le mouvement est vivant. D'ailleurs, on a tenu le week-end passé notre congrès national à Berne avec plus de 200, 250, peut-être près de 300 personnes sur tout le week-end venues de toute la Suisse, ce qui renoue avec les chiffres qu'on avait au printemps dernier.
Dans la région, vous préparez deux actions pour la fin du mois de novembre. L'une d'entre elles aura lieu le 29, jour du Black Friday. On le rappelle, le Black Friday, c'est une journée de soldes assez conséquente. Qu'est-ce que vous comptez faire passer comme message ce jour-là ?
Alors, on souhaite organiser des actions, en effet, pour profiter un petit peu de cette journée du Black Friday, parce que c'est quelque chose qui... C'est un événement, entre guillemets, auquel beaucoup de gens participent et donc on espère être présent dans l'espace public pour attirer l'attention sur non seulement la surconsommation, mais aussi la surproduction. Donc on aura aussi des tracts pour informer la population. Le but, c'est pas de culpabiliser les consommateurs, mais c'est bien d'attirer l'attention sur le problème de la surproduction et de tout ce qui est fait pour que nous devenions des surconsommateurs et des surconsommatrices.
Dans vos rangs, il y a beaucoup de jeunes et d'étudiants. Qu'est-ce qu'il en est des personnes plus âgées ? Vous cherchez à sensibiliser un autre public ?
Oui, c'est vrai que le mouvement au début était vraiment un mouvement de jeunes et le reste en bonne partie pour ce qui est de la grève du climat. Maintenant, on a décidé au congrès de la fin du mois de juillet, sauf erreur, qu'on allait essayer de construire un mouvement de grève pour le 15 mai 2020, qui est un mouvement de grève qui impliquera cette fois-ci des travailleurs et des travailleuses. On s'est tourné vers les syndicats, de nombreuses réunions ont déjà eu lieu. D'ailleurs, pas plus tard que hier, le syndicat des services publics a décidé, lors de son congrès national, d'appeler à une journée de grève et d'action syndicale pour la justice sociale et climatique avec des blocages du fonds de grève, ce qui est un signe très encourageant. Et aujourd'hui, nous organisons donc à 13h30 au Suisse à Delémont la deuxième réunion des travailleurs et travailleuses pour l'avenir. Afin de constituer des collectifs sur les lieux de travail pour préparer petit à petit la mobilisation.
Vous pensez également à rencontrer des représentantes de la grève des femmes afin de vous allier. Militer pour le climat et pour le droit des femmes, est-ce que c'est pareil ?
C'est pas pareil, évidemment, c'est des questions qui sont quand même connectées et ça dépend comment on saisit le problème, mais dans tous les cas, la grève des femmes, c'est un mouvement absolument massif et c'est aussi ce qui nous intéresse à travers ces rencontres, c'est non seulement de voir sur quel point on peut converger, mais aussi de tirer simplement, de bénéficier de l'expérience de toutes ces personnes qui ont réussi à construire cette grève des femmes et qui continuent, parce que la grève des femmes, c'est pas non plus un mouvement c'était pas juste une date comme ça, il y aura des actions aussi l'année prochaine. Et justement, on est en train de travailler. Il y a une coordination romande écoféministe qui existe déjà. Et voilà, nous aussi au niveau du Jura, on les rencontrera effectivement prochainement.
Et un dernier mot encore sur la politique environnementale actuelle. Qu'est-ce qui doit être fait au niveau du Jura ?
Nous, ce qu'on demande, c'est que le canton prépare un plan climat qui réponde aux revendications de la grève du climat, c'est-à-dire aux objectifs de la grève du climat, qui sont notamment d'atteindre la neutralité carbone en 2030. Nous, ce qu'on réclame à tout prix, ce n'est pas juste des mesures, parce qu'évidemment, on nous dit à chaque fois qu'on est en contact avec des parlementaires, ils nous disent oui, bon, oui, on a des projets, etc. On n'en doute pas, évidemment, il y a un département de l'environnement, donc c'est normal. Nous, ce qu'on veut, c'est des objectifs clairs, chiffrés, datés, pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, parce que c'est le seul moyen, disons, de rester dans des limites sûres pour ce qui est de l'avenir du climat.
Joachim Légeret, merci d'avoir été avec nous. On le rappelle, une rencontre est prévue cet après-midi pour évoquer notamment comment les actifs peuvent se greffer à des manifestations pour le climat. C'est donc à 13h30 au restaurant Le Suisse à Delémont.
Merci.
Et on continue de parler de notre planète. Au Popa à Porrentruy, on peut voir la Terre vue du ciel. Le musée expose jusqu'au 22 décembre une centaine de clichés du photographe français Yann Arthus-Bertrand. Des images très connues, d'autres qui n'ont jamais été exposées, la plupart prises entre les années 70 et 2000. Elles ont tout en commun de montrer la planète et ses habitants. Pour Yann Arthus-Bertrand, actif dans la lutte contre le réchauffement climatique, il s'agit de montrer la beauté de notre Terre.
Il y a eu première conférence de Rio sur l'environnement, j'ai voulu faire un gros travail sur l'état de la planète pour l'an 2000. Et c'est vrai que c'est un travail qui a complètement changé ma vie parce que je me suis d'abord aperçu que la Terre était véritablement une œuvre d'art. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau qu'un grand chêne dans un champ.
Justement, cette exposition, c'est aussi pour faire réfléchir les gens, les rendre conscients de quelque chose.
Je crois qu'aujourd'hui, il y a plein de films et de photos. On a commencé un petit peu avant parce que j'ai eu la chance de faire ce travail, mais je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a pris conscience de ce qui est arrivé. Je pense qu'on est dans un espèce de déni complet. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour qu'on change. On est complètement incohérent. On fait le contraire de ce qu'on devrait faire en permanence. On est terrorisé par ce qui est en train d'arriver. Et on continue à consommer de la viande, à consommer des énergies fossiles, comme si ça n'avait aucune importance. On fait le contraire de ce qu'on devrait faire. Voilà.
L'entretien complet et une vidéo sont à retrouver sur notre site internet rfj.ch. L'exposition de photographie de Yann Arthus-Bertrand est à voir tous les week-ends au Popa à Porrentruy jusqu'au 22 décembre. À l'heure du fait maison, rares sont ceux qui s'essaient au boudin. En cette période de Saint-Martin, on respecte les traditions. RFJ s'est rendu dans la cuisine d'Irène Kikré à Grandfontaine. Avec l'aide de sa fille Christelle et de sa sœur Isabelle, elle va couler une quarantaine de boudins pour le repas de famille du lendemain. Nancy Chapuis a glissé son micro au bord de l'immense casserole. Attention aux éclaboussures.
Moi, c'est une tradition que j'ai toujours eue depuis petite, hein, qu'on a eu mes parents faire, après on l'a fait. Alors, ma fille n'est pas tellement d'accord. J'ai dit, quand je ne serai plus là, ben, j'ai dit, c'est toi qui veux faire le boudin. Ah non, qu'elle m'a dit.
Il paraît que ça sent très fort, mais là, ça va chez vous, ça va encore.
Moi, je suis dedans, hein, je ne sens plus rien.
Le poireau et les oignons cuisent, là, ça, vous sentez. Hein. Ça, pouf, vous sentez dehors, vous sentez partout. C'est ça qui sent fort, d'ailleurs.
Eh oui,
c'est des assaisonnements.
Vous voyez ?
Oups là ! Voilà.
Ah, yeah. C'est bon, c'est en ordre. Ben, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. J'aurais dû sortir le tablier, tant pis.
On travaille proprement.
Oui, regarde.
Retrouvez la préparation du boudin en images sur notre site internet. Et pour la recette, rendez-vous ce soir à 18h dans le journal pour prendre note des ingrédients et du savoir-faire ancestral. Trois cantons romands décident aujourd'hui quels représentants ils veulent envoyer au Conseil des États à Berne. Les citoyens de Fribourg, Genève et Vaud sont appelés aux urnes pour ce deuxième tour. Et les Espagnols votent aussi à nouveau aujourd'hui pour les quatrièmes législatives en 4 ans. Des élections qui se tiennent dans un climat alourdi par la crise catalane et la montée attendue de l'extrême droite. Les sondages prévoient une victoire du socialiste Pedro Sanchez, mais pas suffisante pour réunir la majorité absolue nécessaire à sa confirmation comme président du gouvernement. Les précisions de notre correspondant à Madrid, Pierre Quérol.
Ils sont 37 millions d'Espagnols à se rendre aux urnes. Il s'agit d'un scrutin à un seul tour, en jeu 350 sièges au Congrès des députés et 208 au Sénat. Le nouveau président du gouvernement devrait être désigné par le roi, à la condition qu'un leader atteigne la majorité absolue requise, ce qui devrait être difficilement le cas. Face à face, deux grands blocs, gauche-droite, s'affrontent. Les sondages estiment que les leaders socialistes sortants, Pedro Sanchez, devraient certes arriver en tête de la consultation, mais sans obtenir la majorité absolue nécessaire de 176 sièges pour gouverner. Lors des dernières élections, d'ailleurs, il n'en totalisait que 123, et c'est dans l'incapacité de réunir une majorité suffisante, après un désaccord avec l'extrême-gauche, qu'il a décidé de convoquer de nouveau les électeurs aujourd'hui. Plus de 92 000 policiers ont été mobilisés dans toute l'Espagne, surtout en Catalogne. Les premières estimations sorties des urnes seront diffusées dans les grands médias dès 20h. On saura alors si les résultats d'aujourd'hui ressembleront, ce qui est probable, à ceux enregistrés aux dernières législatives. Si donc, tout est à recommencer, autrement dit, si aujourd'hui les Espagnols auront voté pour rien et devront une fois encore se prononcer. Les enquêtes prédisent une forte abstention en raison de la lassitude des Espagnols fatigués d'avoir voté 4 fois en 4 ans et de leur méfiance vis-à-vis de leur classe politique incapable de trouver un accord de gouvernement. On attend enfin une forte poussée de l'extrême droite de Vox qui pourrait bien créer la surprise.
RFJ, il est 12h27.
Sport.
Ils seront 8 à se disputer une couronne sur les bords de la Tamise, Yanis Gonia.
Oui, Caroline, c'est aujourd'hui que débute le Masters de tennis de Londres. Il réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. Roger Federer fera son entrée en lice ce soir. Il sera opposé à l'Autrichien Dominic Thiem à 21h. Le Balois compte déjà 6 victoires dans ce tournoi des maîtres. Pourtant, l'épreuve reste à part dans la saison. Roger Federer.
C'est toujours compliqué, je veux dire, parce qu'en fait, on sous-estime à quel point c'est aussi un peu un changement pour nous, les meilleurs joueurs du monde, d'affronter un autre meilleur joueur du monde au premier tour. Parce qu'en principe, tu es toujours en train de retrouver la base, le rythme, le timing, le sentiment avec les balles, comment les balles ils volent. Et quand tu ne joues pas proche des lignes contre les meilleurs, d'habitude, ils te font payer. Alors... C'est pour ça que c'est toujours la pression dès le début, surtout quand tu sais que tu as encore Djokovic peut-être dans le groupe, que tu sais, tu ne joues pas Djokovic en premier, mais en fait tu joues Thiem et tu dois battre Thiem quasiment pour t'enlever peut-être un peu de pression pour la suite. Mais c'est comme ça, moi je pense quand même qu'avec mon jeu en indoor, je peux toujours bien commencer aussi, je l'ai prouvé à Bâle ou ailleurs aussi, ou dans le passé ici à Londres, que je peux bien commencer. En tout cas, je me réjouis pour ce beau challenge.
Et le Masters de tennis de Londres commence cet après-midi. Le Serbe Novak Djokovic va ouvrir les feux à 15h. Il fera face à l'Italien Matteo Berrettini. Et chez les dames, la France a été couronnée pour la 3e fois en Fed Cup ce matin en Australie. Les deux tricolores Kristina Mladenovic et Caroline Garcia ont apporté le point de la victoire à leur équipe en finale. Elles ont remporté le double décisif face à Ashleigh Barty et Samantha Stosur 6-4, 6-3. En hockey sur glace, la Suisse est à la lutte pour le titre dans la Deutschland Cup. Les hommes de Patrick Fischer font face à la Russie en ce moment dans le cadre de ce tournoi amical. Le coup d'envoi de la partie a été donné à 11h. Le score est actuellement de 2-1 en faveur de la Russie sur la glace de Krefeld. Les Helvètes s'assureraient le trophée s'ils s'imposent dans le temps réglementaire. En inline hockey, tout est relancé dans la finale des playoffs de Liga. À l'extérieur, le SHC Rosmaison a été renversé par les Bienzelanders 5-2 hier dans l'acte 3. Vainqueur des deux premiers duels, les Jurassiens ne mènent plus que 2-1 dans cette série qui se joue au meilleur des 5 matchs. L'acte 4, prévu cet après-midi à 15h à Bienne, s'annonce donc palpitant. Le BC Boncourt a recouté aux joies du succès. Les frontaliers ont pris le meilleur sur les Star Wings de Bâle, 82-71 hier en terre alémanique. Ils se sont détachés dans les dernières minutes d'une partie très serrée pour finalement lever les bras au ciel. Les protégés de Vladimir Ruzicic renouent ainsi avec la victoire après deux défaites de rang en Swiss Basketball League. Au classement, ce succès décroché leur permet de remonter au 9e rang, à un petit point du top 6. Le FC Basse-Cour a lui conclu son année sur une bonne note. Les footballeurs jurassiens de Première Ligue sont allés battre Moutons 4-1 hier soir en terre baloise. Les Vadets passeront l'hiver au 8e rang du classement avec un matelas de 9 points sur la zone rouge. De leur côté, les SR de Lémont repartent à la conquête de leur trône cet après-midi. Les jaunes et noirs peuvent s'assurer de clôturer le premier tour en tête de la hiérarchie. Ils doivent pour cela décrocher au moins un point face à Baden. Coup d'envoi de la partie à 14h30 à la Blancherie. Et notez encore que les deux entraîneurs du FCB et des SRD seront les invités de la matinale demain pour dresser leur bilan du premier tour. Rendez-vous dès 7h15 sur RFJ.
Enfin, en troisième ligue, une seule rencontre était à l'affiche hier dans le canton. Le choc au sommet du groupe 7 de troisième ligue entre Franche-Montagne et Vic a accouché d'un match nul de partout. Les Taignons gardent ainsi 10 points d'avance en tête de la hiérarchie. Bon après-midi.
Le brouillard s'en est allé, mais les nuages, eux, restent. Ils donnent du fil à retordre à un soleil qui aimerait percer la masse. Il y arrivera par moments. Cet après-midi, nous devrions donc bénéficier de belles éclaircies. Le temps restera sec, les températures de saison et le vent soufflettera sur les crêtes. Demain ressemblera à une partie de cachette entre soleil et nuages qui se partageront la place dans un ciel qui, la plupart du temps, restera couvert. Les nuages s'activeront lundi. En soirée, les précipitations vont perdurer la nuit suivante. Les flocons, eux, volteront entre 800 et 1100 mètres d'altitude. Mardi, la matinée sera grisailleuse, l'après-midi lumineuse, mais les températures resteront douces.